La Bible est-elle la parole de Dieu ou n'est-elle que les écrits illusoires d'hommes? Selon l'un des plus véhéments athées de notre époque, ce serait la seconde hypothèse. On peut sentir le mépris chez Richard Dawkins lorsqu'il déclare dans son ouvrage intitulé « Pour en finir avec Dieu ». Pour être honnête, une grande partie de la Bible n'est pas systématiquement mauvaise, mais tout simplement bizarre, comme si vous vous trouviez devant une anthologie constituée par un bric-à-brac hétéroclite de documents disparates qui ont été composés, puis revus, traduits, déformés et améliorés par des centaines d'auteurs, de correcteurs et de copistes anonymes, inconnus de nous et surtout les uns des autres sur 9 siècles. À première vue, Dawkins peut sembler bien instruit pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. Mais les faits qu'il avance sont incorrects. Il refuse de voir la vue d'ensemble et l'unité présente dans les Écritures. Quelle est donc la réponse à cette question ? Le manuel que nous appelons la Bible constitue-t-elle la parole de Dieu ou est-ce l'œuvre de simples hommes ? Je répondrai à cette question aujourd'hui dans l'émission Le Monde de Demain et je vous donnerai 3 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir confiance en la Bible. Je vous proposerai également une ressource pour renforcer votre compréhension. Alors assurez-vous d'avoir sous la main de quoi noter comment recevoir un exemplaire gratuit de la brochure La Bible, réalité ou fiction. Restez à l'écoute, je reviens tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue de la part de nous tous ici, au monde de demain. Je suis heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui, car vous devez connaître la réponse à la question suivante. Le manuel que nous appelons la Bible constitue-t-il la parole de Dieu, ou est-ce l'œuvre de simples hommes? Vous pouvez croire qu'il l'est ou pas. Mais avez-vous non simplement cru la réponse à cette question, mais l'avez-vous vérifiée par vous-même? Vous devez en avoir la certitude. Car la réponse à cette question aura un impact considérable sur la façon dont vous vivez. Ce livre est-il fiable? Pouvez-vous compter sur ses enseignements et ses promesses au sujet de la vie après la mort? Vous devez prouver s'il est vrai ou faux. Et j'affirme aujourd'hui que vous pouvez prouver que la Bible est plus que l'œuvre de simples hommes. C'est l'œuvre du Créateur de la vie. Celui qui sait le mieux comment nous devrions vivre est celui qui a un plan pour chaque être humain. Pour compléter le thème d'aujourd'hui, nous vous offrons une ressource qui apporte encore plus d'informations sur ce sujet. Alors n'oubliez pas de noter les coordonnées qui seront affichées à différents moments de cette émission. Pour recevoir un exemplaire gratuit de la brochure La Bible, réalité ou fiction. Par où commencer pour prouver la validité de la Bible ? La réponse est que nous devons commencer par vérifier l'existence du Dieu qui l'a inspiré. Pour prouver la Bible, nous devons d'abord prouver l'existence de Dieu. Donc raison numéro 1, l'auteur de la Bible est réel et vous pouvez prouver son existence. La théorie de l'évolution a beaucoup miné la foi des gens. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés par des documentaires télé sur la nature et en cours de biologie à l'école avec l'idée que la vie n'a pas été créée, mais que c'est le résultat de processus évolutifs. Des individus tels que Dawkins ridiculisent ceux qui croient en Dieu. La foi est la grande échappatoire, la grande excuse, pour échapper au besoin de penser et d'évaluer l'épreuve. La foi est la croyance, malgré ou peut-être, à cause du manque de preuves. Selon Dawkins, la foi en Dieu est basée sur une foi aveugle, tandis que la théorie de l'évolution est fondée sur des preuves tangibles. Cependant, tous les évolutionnistes ne partagent pas son mépris, mais reconnaissent que l'évolution requiert également la foi. Le 13 février 1993, l'Association américaine pour l'avancement de la science organisa un colloque autour du thème, dont le sujet de discussion était la façon de traiter le nouvel anti-évolutionnisme. Michael Ruse, une référence dans le domaine de l'évolution et de la philosophie, reconnut dans son intervention. Il n'y a assurément aucun doute que dans le passé, et je pense aussi dans le présent, pour beaucoup d'évolutionnistes, que l'évolution a fonctionné comme quelque chose comportant des éléments qui sont, avouons-le, semblables à une religion séculière. Ne vous méprenez pas. Ruse est un évolutionniste pur et dur, comme il confirma abondamment dans son intervention pendant ce colloque et dans ses réponses ultérieures. Cependant, il continua d'affirmer que l'évolution est une religion séculière. Mais je viens ici pour vous dire que, philosophiquement, je pense que tout à chacun devrait être sensible à ce que l'histoire nous montre, à savoir cette évolution, semblable à une religion, implique d'avoir certains a priori ou des hypothèses métaphysiques qui, à un certain niveau, ne peuvent pas être prouvées empiriquement. Tandis que Dawkins et d'autres comme lui ridiculisent la foi en Dieu, comme si elle était sans preuve, il devrait, comme Ruse l'expliqua à son public, d'abord se regarder dans le miroir et admettre leur propre foi en leur Dieu darwinien. Nous ne pouvons pas prouver que Dieu existe en réfutant la théorie de l'évolution. Mais franchement, y a-t-il d'autres conclusions? Si l'évolution s'avère être une fausse religion, peut-être faut-il examiner de plus près l'autre alternative. Ceci m'amène à un point crucial des faits scientifiques. Avant de déclencher un processus évolutif, il faut d'abord qu'il y ait de la vie, et la vie apparaissant par hasard est tout simplement impossible. La vie évoluant à partir d'un bouillon de culture semble être une certitude attrayante. Réunissez les bonnes conditions et cela devrait se produire, mais est-ce bien le cas? Est-il facile d'assembler un organisme vivant, aussi simple soit-il? Michael Denton souligne ce que tous les biologistes avertis doivent admettre concernant la complexité inouïe de la vie. Malgré sa taille incroyablement minuscule, la plus petite des bactéries est en effet une véritable usine miniature dotée d'une puissante machinerie moléculaire. Beaucoup plus complexe que n'importe quelle machine fabriquée par l'homme et absolument sans équivalent dans le monde inorganique. Pensez-y, la plus petite des bactéries est beaucoup plus complexe que n'importe quelle machine fabriquée par l'homme. Et cela, mes amis, n'est pas une exagération. Il déclare plus loin. La complexité des types de cellules les plus simples que l'on connaisse est si grande qu'on ne peut pas admettre qu'un tel objet ait pu être assemblé soudainement par un événement fantastiquement improbable. Un tel phénomène équivaudrait à un miracle. La prochaine fois que vous entendrez parler que de l'eau a été trouvée sur d'autres planètes comme s'il s'agissait du seul élément nécessaire pour générer la vie, pensez à cette déclaration de Bill Bryson dans son nouvel ouvrage intitulé « Une histoire du corps humain ». Même si vous réunissiez la totalité du savoir humain au travers des plus grands génies de notre temps et du passé, vous ne parviendriez pas à fabriquer ne serait-ce une seule cellule vivante. Félicitations à tous ces évolutionnistes pour leur foi inégalée. Quelques paragraphes plus loin, il qualifie la vie de « miracle ». Bryson comprend que l'ADN est nécessaire pour former nos cellules. Mais qu'est-ce que l'ADN? Il écrit « En fait, votre ADN n'est rien d'autre que le manuel de fabrication de vous-même. » Mais comment ce manuel de fabrication est-il apparu? Qui en a rédigé le message codé? Et remarquez bien ceci, il faut une puissante machinerie en protéines pour exécuter les instructions de fabrication des protéines. Alors comment les premières protéines ont-elles vu le jour? Aussi, si la vie n'est pas apparue par hasard, alors la meilleure déduction est qu'il y a un dieu d'intelligence au-delà de notre imagination. Et notre existence même appelle la question, pourquoi? Pourquoi existons-nous? Dans quel but? Et ce créateur ne nous donnerait-il pas la compréhension de ce but? Alors où pouvons-nous chercher sa révélation? Serait-ce ce merveilleux livre qu'est la Bible? Le premier point était, raison numéro 1, l'auteur de la Bible est réel, et vous pouvez prouver son existence. Raison numéro 2, l'accomplissement des prophéties prouve que la Bible constitue la parole de Dieu. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un quart à un tiers de la Bible est constitué de prophéties. Et à travers les mots de ce livre extraordinaire, quelqu'un prétend être le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut prédire l'histoire à l'avance. Remarquez ce défi que l'on trouve dans Ésaïe au 46e chapitre au verset 9 et 10. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. La Bible a-t-elle prédit l'avenir avec exactitude? Oui, assurément. De nombreuses prophéties faciles à comprendre se sont déjà accomplies, comme certaines qui se trouvent dans le livre de Daniel. Peu après avoir pris le trône de l'Empire chaldéen ou babylonien, le roi Nebuchadnezzar fit un rêve inhabituellement réaliste. Il y vit l'image d'un homme et Daniel fut appelé à en interpréter la signification. Voici comment Daniel décrit l'image de Nebuchadnezzar, Daniel 2, à partir du verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel expliqua ensuite que la tête d'or représentait Nebuchadnezzar et son royaume chaldéen, et qu'il y aurait trois royaumes à suivre, versets 39 et 40. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. L'histoire confirme l'existence des quatre royaumes suivants. L'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire gréco-macédonien et l'Empire romain. Les descriptions de ces quatre puissances mondiales sont relatées plus en détail dans Daniel 7 et Apocalypse chapitres 13 et 17. Mais nous ne prendrons pas le temps dans cette émission d'entrer dans ces détails. Cependant, dans le 8e chapitre de Daniel, des détails très spécifiques sont donnés concernant la relation entre le 2e et le 3e royaume, où ils sont décrits comme représentant un bélier et un bouc. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Fidèle à cette prophétie, Alexandre le Grand de Macédoine se leva sur la péninsule grecque et renversa les Mèdes et les Perses. Son empire s'étendit de la Grèce à l'Inde et au sud jusqu'en Égypte. Nous lisons plus loin dans cette prophétie qu'à sa mort, en 323 avant Jésus-Christ, son royaume serait divisé entre quatre de ses généraux en quatre royaumes distincts. Daniel 8 et au verset 22. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Bien que nous puissions nous tourner vers les prophéties accomplies, et il y en a bien plus que la plupart des gens peuvent l'imaginer, il y a d'autres prophéties qui s'accomplissent en ce moment même sous nos yeux. Comme nous l'avons montré à de nombreuses reprises dans cette émission, Daniel décrit avec précision le temps de la fin comme étant un temps de grande explosion de connaissances. Notez-le dans Daniel au 12e chapitre et au verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et il y a beaucoup, et je dis beaucoup, de prophéties qui doivent encore s'accomplir. Après tout, la Bible est composée d'un quart à un tiers de prophéties, ce qui est considérable. La première raison que nous avons abordée dans l'émission d'aujourd'hui est la suivante. Raison numéro 1. L'auteur de la Bible est réel et vous pouvez prouver son existence. Raison numéro 2. L'accomplissement des prophéties prouve que la Bible constitue la parole de Dieu. Et enfin, notre troisième raison, raison numéro 3, c'est au fruit qu'on juge l'arbre. En d'autres termes, Dieu sait mieux que quiconque comment nous devons nous comporter. Considérez ce défi donné dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est le défi qui est lancé à chacun d'entre nous. Mais la Bible révèle également quelque chose d'important sur notre nature. Nous préférons nous fier à notre propre jugement plutôt qu'à celui de notre Créateur. Ce point est évoqué dans de nombreuses Écritures ainsi qu'au travers de l'histoire de l'humanité. Mais remarquez comment cela est résumé dans Proverbes au 14e chapitre et au verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Dieu révèle qu'il existe deux modes de vie. L'une mène à toutes sortes de bénédictions et à la vie, l'autre mène à toutes sortes de problèmes et à la mort. La propension de l'homme est de choisir ce dernier. Voyons donc comment la Bible nous indique la bonne façon de vivre. L'un des 10 commandements dit très simplement, Exode au 20e chapitre, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » J'ai choisi celui-ci parce que nous sommes peut-être tous d'accord pour dire que le meurtre et le vol ne sont pas bons. Au moins pas bons pour notre prochain. Mais rejeter la tentation de l'adultère non seulement profite aux autres, mais l'obéissance à ce commandement nous protège nous-mêmes. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, dans notre monde, transgressent ce commandement. La plupart des personnes rationnelles reconnaissent que l'adultère est un fléau pour la société qui nuit au mariage, tant aux enfants qu'aux individus qui commettent ce péché. Comme il nous est conseillé dans 1 Corinthiens au 6e chapitre et au verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pèche contre son propre corps. Quelqu'un est-il d'avis que les maladies sexuellement transmissibles ne sont qu'un des résultats négatifs de l'immoralité sexuelle? Ces maladies pourraient être éradiquées en une seule génération si ces actes intimes étaient limités aux relations conjugales monogames et fidèles. Pourtant, la raison humaine permet aux individus d'argumenter autrement contre les faits et toute sagesse évidente. On pourrait citer de nombreux exemples montrant que Dieu sait mieux que quiconque, mais je veux me concentrer sur un autre exemple de la loi de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Et c'est une loi pour laquelle le monde entier paie actuellement un lourd tribut pour l'avoir rejetée. Dans un souci d'amour, Dieu a révélé à l'humanité des lois sur les aliments purs et impurs. Il nous a dit ce qui est bon à consommer pour l'homme et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est mentionnée pour la première fois dans le récit du déluge où il fut demandé à Noé d'accueillir des animaux à bord de l'arche, mais tous les animaux n'étaient pas identiques. Remarquez-le dans Genèse au 7e chapitre et au verset 2. « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » C'était donc bien longtemps avant l'époque de Moïse. Cependant, la Bible rappelle à Moïse de faire les différences entre ce qui est pur et impur. Lévitique 11 et Deutéronome 14 précisent ces différences. La majorité de l'humanité rejette ces instructions et le résultat tient en un mot, coronavirus. L'année 2020 restera dans les annales comme celle où le Covid-19 a pris des millions de vies et mis à mal l'économie d'individus et de nations. Que le coronavirus provienne d'un marché d'animaux exotiques ou d'un laboratoire de virologie, l'origine remonte aux chauves-souris Rhinolof. Depuis l'épidémie de SRAS de 2003-2004, les chauves-souris et le coronavirus qu'elles véhiculent ont fait l'objet d'études approfondies car on pense qu'elles sont à l'origine du SRAS. Cependant, même si les chauves-souris sont prisées dans la pharmacopée chinoise, voire consommées en Chine, les virus qu'elles transmettent doivent normalement d'abord infecter un autre animal avant de pouvoir se propager à l'humanité. Popular Science publia un article pendant la crise du SRAS dans lequel on pouvait lire ce qui suit. En théorie, le SRAS est passé de l'animal sauvage à l'être humain lorsqu'il a acquis les clés moléculaires lui permettant de pénétrer dans nos cellules, explique Michael Lay. Pour ce faire, il a pu d'abord se mélanger à un virus humain, se développant par l'intermédiaire d'une autre espèce animale. Un porc, par exemple, peut servir de récipient de mélange génétique lorsqu'il est co-infecté par deux virus, ce qui leur permet d'échanger des gènes. L'article poursuit en faisant cette déclaration remarquable. Le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent de Chine méridionale n'est pas une surprise, déclare le virologue Michael Lay, qui pense que les traditions locales de manger des animaux sauvages exposent la population au virus d'animaux. Considérez les implications profondes de ceci. La cause de la plupart des virus grippaux sont connues et si vous supprimez la cause, vous enrayez la grippe. Le gibier n'est pas le problème, mais l'espèce animale l'est. Notez que la chauve-souris et le porc sont tous deux considérés comme impurs par la Bible. Il en va de même pour les chameaux, les primates comme les singes et d'autres chairs exotiques consommées en Asie, en Afrique et ailleurs dans le monde. Le MERS, les virus Nipah et Ebola, la pandémie de grippe de 1918, le Covid-19 et de nombreuses autres maladies sont le résultat de la consommation de ces aliments bibliquement impurs. Si les scientifiques ont compris cela, ce n'est pas le cas de l'humanité en général. Nous n'avons pas réussi à comprendre la vérité révélée par Dieu telle qu'elle est présentée dans la Bible. Nous pensons que nous pouvons nous passer de cette révélation et nous en tirer à bon compte. Alors qui est le plus intelligent ? Nous ferions bien de respecter le manuel d'instruction de Dieu destiné à l'humanité. Vous pouvez prouver que la Bible constitue la parole de Dieu, comme nous l'avons vu dans l'émission d'aujourd'hui. Raison numéro 1. L'auteur de la Bible est réel et vous pouvez prouver son existence. Raison numéro 2. L'accomplissement des prophéties prouve que la Bible constitue la parole de Dieu. Et enfin, notre troisième raison. Raison numéro 3. C'est au fruit qu'on juge l'arbre. Merci d'avoir regardé notre émission. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne manquer aucune de nos vidéos du monde de demain. Et si vous souhaitez recevoir notre brochure gratuite intitulée « La Bible, réalité ou fiction », cliquez juste ici. Et à très bientôt !